La collective. C'est une émission hebdomadaire. C'est à plusieurs. C'est ensemble. C'est local. C'est beaucoup d'ici, parfois de là-bas. C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews, de l'actualité, des chroniques, du reportage, de la musique. C'est divers et c'est varié.
La collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est une fois.
C'est de temps en temps. C'est plein de fois.
C'est tout de suite. Et c'est maintenant sur Radio Sympho.
La collective.
Bonjour, bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Ferréol. Vous êtes dans l'émission La Collective, l'émission ouverte à toutes et tous et surtout à tous les sujets. Cette semaine, c'est Alix et moi, Marie-Leïla, qui animerons cette émission et Romain qui nous accompagnera à la technique. Nous allons aborder un thème difficile mais nécessaire, celui de l'inceste ou plus précisément des violences incestueuses, atteintes, agressions et viols. C'est un sujet grave et qui nous concerne toutes et tous, de près ou de loin. D'ailleurs, un tiers de la population connaît au moins une personne victime dans son entourage. Heureusement, sur ce thème encore trop tabou, la parole doucement se libère. Notamment depuis l'année dernière, après la publication du livre « La famille agrandée » de Camille Kouchner, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux sur le hashtag « #MeTooInceste ». D'après un sondage Ipsos datant de 2020, en France, 10% de la population serait victime d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. 78% sont des femmes et 22% des hommes. Selon des données de l'État datant de 2016 à 2018, 53% des victimes de violences sexuelles incestueuses avaient moins de 4 ans et un quart était âgé d'un an. Dans cet élan, plusieurs médias se sont penchés sur divers aspects du sujet. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi d'interroger le parcours de personnes victimes de ces violences en cherchant à partager des pistes pour vivre mieux. Pour en parler avec nous, nous accueillons quatre invités. Djalil Djezar, auteur du livre Le Salon Marocain et chanteur.
Bonjour.
Claire Gotta, psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique du traumatisme des violences sexuelles.
Bonjour.
Didier Poudving, bénévole à SOS Inceste pour Revivre de Grenoble.
Bonjour.
Et Lisa Tivol, présidente du comité Alexis Danan de Valence pour la protection de l'enfance.
Bonjour.
Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous pour aborder ce sujet qui est complexe et qu'on ne connaît pas forcément. Pour commencer, on vous propose d'écouter un poème écrit par Christian Dumottier et lu par son épouse comédienne Taous Dumottier. Donc c'est un texte qui s'appelle « Son métier ».
C'est son métier, alors elle peut le faire. J'ai 4 ans, je suis une petite fille. Ma mémoire s'effiloche comme une vieille dentelle. L'odeur de la crème me pénètre avec rage. J'ai les yeux qui brassent l'air, je suis figée. Un faux sourire en vadrouille. Ma mère semble heureuse. Ses mains sur mon corps sont entrées par effraction. Elles ont l'insistance des terreurs médicales. C'est normal, c'est son métier. Elle sait soigner toutes les maladies avec la pommade et ses mains. Ses mains qui défrichent, explorent, s'insinuent comme un été brûlant. Ses mains qui m'enveloppent comme un tricot de peau. C'est son métier. Je m'invente des maux de ventre pour lui faire plaisir. Elle vient me chercher à l'école, elle me soigne, c'est son métier. J'ai envie de vomir, mais je suis son cadeau, elle m'ausculte, je déserte mon corps. Je voyage dans le mur. J'ai 12 ans, je suis un peu femme, pour le bonheur de ma mère, pour ses fouilles à corps perdu, pour ses doigts gigantesques, pour ses caresses qui se paument sur ma peau. Ici, tout est ouvert, pas de porte. La transparence de l'indécence, l'intimité des courants d'air, le secret des clameurs. Je suis ouverte sur ces passades. C'est normal, c'est son métier. Elle est là aussi quand on m'ausculte, qu'on m'envahit. J'ai 20 ans. Je suis une machine, je dérouille mon corps dans des guet-apens sportifs. Je flotte dans les verbiages d'insomnie, imbibé de tabac et de caféine. Elle traque mes émois amoureux, vole l'air frais de mes amitiés. Elle est partout. J'ai un monstre en moi, poisseux, morbide comme un crépuscule de cendre, une bombe à enfanter la désespérance. Je suis un repoussoir, un aimant inversé. Les frôlements me dévastent. Je suis verrouillée. J'ai 28 ans. Mon corps a déposé les armes, cautérisé par les mots, ensablé par l'écoute. J'ai dissous le monstre dans l'évanescence de l'inoubliable agression. J'ai plâtré la fracture. Je suis en rééducation émotionnelle, portée par la sécurité des autres. Mon corps est à moi.
Voilà, c'est un texte écrit à partir d'un témoignage publié sur Mediapart. Pour nous, c'est un texte qui illustre la presque banalité des violences incestueuses qui concernent monsieur, madame, tout le monde, en fait, finalement. Du coup, est-ce qu'on pourrait essayer de définir ce que c'est qu'une violence incestueuse? Comment peut-on la reconnaître? Et en quoi peut-on parler de traumatisme? C'est peut-être si Lisa, tu veux parler de ça.
Oui, je trouve que le texte qu'on vient d'entendre est justement très évocateur du fait que les violences incestueuses, ce n'est pas tant que l'agression ou les agressions en elles-mêmes, c'est aussi le fait de se rendre compte que l'inceste, c'est aussi la façon de rendre l'enfant dans un état d'objet, en fait, et non d'individu à part entière. Et donc je pense que c'est notamment ça qu'il est important de... d'entendre aujourd'hui, notamment à travers l'émission, le fait que finalement l'inceste c'est surtout une emprise et un conditionnement de la personne, un conditionnement à tous les niveaux d'état, d'objet.
Merci. Après les autres, si vous voulez compléter ou réagir, on vous laisse prendre la parole en fait, comme vous voulez.
Alors, concernant la définition d'inceste, c'est toute relation sexuelle entre des membres d'une même famille. C'est voilà, mal défini par la loi française, mieux défini dans les autres pays, mais enfin c'est ça. Il y a un tabou au sens constructif du terme, il n'y a pas de possibilité d'avoir des relations sexuelles au sein d'une même famille. Ça, c'est l'inceste.
Et c'est vrai que dans cette émission, on parle plus précisément de violence incestueuse dans le sens non consenti, en tout cas, pour être clair, quoi.
Après, juste pour rebondir, en fait, par rapport à ma situation personnelle, enfin, mon vécu et mon passé, en fait, les violences incestueuses, je pense pas qu'on puisse en définir, parce qu'il n'en existe pas, voilà, des violences types. Et même, en fait, en tant que victime, on n'a pas forcément conscience, lorsqu'on est, du coup, dans la période d'enfance, qu'on est victime, en fait. Et c'est bien après qu'on en a conscience. Et on pose, justement, des termes qu'on ne maîtrisait pas et qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on découvre que notre passé, en fait, a finalement, en fait, une autre lecture. Et lorsque, pour répondre à la question, en quoi peut-on parler de traumatisme? En fait, pour moi, la question, elle est assez... la réponse, en tout cas, elle va être vaste, parce qu'en fait, ça peut être des traumatismes physiques, psychologiques, émotionnels. Ça peut être des pensées intrusives, des cauchemars. Moi, dans mon cas, je sais que je vomissais. Ou même, il y avait aussi des troubles sexuels. Donc, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Et encore une fois, je pense pas qu'on puisse... répondre précisément, mais en fait, ça dépend clairement du vécu de chacun et aussi des expériences. Mais on peut en tout cas avoir des faisceaux d'indices pour essayer d'englober plusieurs facteurs qui nous permettront de parler d'inceste. Et au-delà de ça, je voulais juste rajouter par rapport aux violences incestueuses, le manque de prévention. Pardon, en fait, j'ai juste par rapport au fait, en fait, que comme il y avait peu de prévention, ou en tout cas, on n'est pas forcément là où on devrait être aujourd'hui, même si on avance chaque jour, je pense qu'en fait, on peut mal définir les violences incestueuses, parce qu'en fait, déjà, les premiers concernés, en fait, n'ont pas forcément connaissance de la notion, en fait, à l'âge où ils sont, en fait.
Est-ce que vous vouliez compléter ?
Je dirais que c'est aussi pour ça, justement, qu'on fait de plus en plus de prévention en milieu scolaire, pour que les enfants soient amenés à libérer leurs paroles et à comprendre ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'on leur apprend qu'il y a des interdits, que les adultes n'ont pas le droit de toucher leur corps, que leur corps n'appartient qu'à eux, et que si quelque chose se passe, ils ont le droit de parler, et d'identifier leurs ressentis, et de savoir à qui parler.
Mais vous avez raison, parce que la relation d'emprise est la plupart du temps sous un jour, entre guillemets, affectueux. tu sais, je t'aime, il ne faudra pas répéter ça à maman parce que ça allait lui faire du chagrin, surtout tu ne le dis pas, etc. Donc s'il n'y a pas une parole comme celle d'un enseignant ou d'un intervenant en prévention qui dit ben, ça, ça ne se fait pas dans une famille. Non, on n'a pas le droit de mettre son doigt dans le zizi d'un garçon, d'une fille ou dans le derrière d'un garçon. Il faut être assez concret quand même. Hein. Mais parce que la plupart du temps, les choses sont habillées d'une apparente douceur. Mais elles créent du trauma, comme tu l'as dit, hein, la peur, l'horreur, le dégoût, le manque de confiance dans l'autre, les cauchemars, une très mauvaise image de soi. Enfin, c'est, voilà, il y en a une liste infinie.
Et en plus, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, c'est que pour moi, en fait, on ne peut pas reconnaître physiquement un enfant victime parce qu'il n'existe pas, un profil type. Mais par contre, il peut y avoir justement tu complèteras, mais par exemple, du surpoids. Ou par exemple, une timidité extrême. Mais en tout cas, voilà, en fait, on ne peut pas reconnaître physiquement quelqu'un qui est victime d'inceste, ça c'est clair. Mais pour autant, il y a quand même quelques faisceaux qui vont venir alarmer en disant « Ah, il y a quelque chose qui se passe, quoi. » Et au-delà de la prévention, je pense qu'en fait, il est nécessaire d'avoir une relation de confiance. Parce que c'est quelque chose d'aller dans une école, et merci pour ce que vous faites, de dire à quelqu'un « Bah voilà, il existe l'inceste », et de mettre des mots. Mais encore faut-il qu'il y ait aussi une relation de confiance pour que la personne, en fait, puisse se dire « Ok, je vais lui parler, mais pour autant, ça ne sera pas partagé au-delà, et je ne serai pas éventuellement la risée ou je n'ai pas peur d'en parler, parce qu'il y aura quand même des conséquences que l'enfant ne maîtrisera pas par rapport à son groupe, ou bien même par rapport à sa famille, en fait. »
Oui, et je dirais que justement le fait de se rendre compte que c'est sous couvert d'amour et d'affection que l'inceste se perpétue dans les familles, hein, et quel que soit l'agresseur, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, et je pense que c'est important aussi de le souligner, hein, que les femmes aussi sont dans cette forme d'abus sur les enfants. Et ce qui est du coup d'autant plus difficile, c'est justement cette confiance, c'est-à-dire que l'enfant va entendre que effectivement ce qu'il peut subir au sein de sa famille, ce n'est pas normal, mais la confiance qu'il a envers son parent, c'est ce qui va le maintenir aussi dans cet état de confusion, et qui va accentuer en fait ce sentiment de culpabilité et cette loyauté envers son référent, en fait. Donc c'est important pour autant de faire de la prévention, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait prendre conscience aux enfants et aux plus jeunes générations que l'inceste, c'est ça. Et effectivement, ce que tu disais est très juste, il faut mettre des mots en fait concrets, ne pas rester évasif et vraiment exprimer ce que c'est qu'une agression sexuelle. Mais il faut aussi comprendre qu'un enfant, pour qu'il parle, il faut qu'il soit en confiance. Et c'est pour ça que le travail, notamment auprès des enfants victimes d'inceste ou de violences sexuelles, est si complexe et si long, parce qu'un enfant, ça ne parle pas en un claquement de doigts, en fait. Donc c'est important d'instaurer un climat de confiance autour de lui aussi.
Mm-hmm. Du coup, au cours de l'émission, on ira approfondir un peu les types de prévention qui existent. Mais peut-être pour... j'aurais bien aimé, si vous voulez, vous personnellement, dire personnellement, mais aussi vos associations, vos structures, comment vous avez commencé à vous mobiliser sur le sujet. Voilà, qu'est-ce qui a déclenché, que ce soit vous personnellement ou les associations que vous représentez, comment ce travail s'est lancé. Ça vous permet aussi de présenter les associations pour vous deux qui représentez les associations.
Alors, je commence. SOS Inceste, c'est une association qui a été fondée par Eva Thomas. C'est la première victime qui a parlé à visage découvert au dossier de l'écran de l'inceste. Ça a été une déflagration à l'époque. Et donc, elle a créé l'association SOS Inceste, qui n'a pas pris une énorme ampleur. Ça existe à Grenoble et de façon plus importante à Nantes. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas été victime moi-même d'inceste, mais avant de devenir psy, j'étais éducateur. Quand vous avez une petite fille de 9 ans qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit « tu veux que je te fasse une pipe ?», forcément vous posez des questions. Donc on commence à les regarder, qu'est-ce qui se passe dans la famille, etc. Et ben, les chiffres que vous donniez tout à l'heure, et ben, si vous imaginez une classe de 30 élèves, il y en a 4 ou 5 qui ont été victimes d'inceste. Donc quand on commence à s'intéresser, à voir les dégâts, à voir les comportements érotisants, à voir des enfants qui ne prennent pas soin de leur corps, qui se détestent, etc., c'est pas possible de rester indifférent. Après, il y a eu le lien aussi, je travaillais dans le suicide. Il y a énormément de personnes chez les enfants qui font des tentatives de suicide. Presque 50% enfants adolescents ont été antérieurement victimes de violences sexuelles.
Ok.
Alors, en ce qui concerne le comité Alexis Danan, il a été créé en 1936 par Alexis Danan, qui était un grand journaliste, grand reporter, et qui a pris conscience de la misère de certains enfants. On lui doit donc la fermeture des maisons de correction et de nombreuses réformes au niveau des réglementations de la fondation et de la fondation des comités de la protection de l'enfance. On est surtout des bénévoles et beaucoup de nos bénévoles sont d'anciennes victimes, mais pas toutes. Certaines vont venir parce qu'elles se sentent concernées par le sujet, parce qu'elles ont connu ça d'une façon ou d'une autre et ça leur parle et elles ont envie de faire quelque chose pour ces enfants. Donc la plus grande partie de nos activités, c'est les faire de la prévention en milieu scolaire, parce qu'on pense que plutôt on préviendra les enfants, plus vite ils pourront parler et moins longue sera leur souffrance. On intervient de toute façon des petites classes maternelles jusqu'au lycée, et y compris aussi auprès des adultes qui s'occupent d'enfants, pour justement arriver à détecter les signes qu'ils peuvent voir chez les enfants. On fait aussi beaucoup d'accompagnement aux familles, pour les familles d'enfants victimes, donc pour les orienter vers des professionnels qui vont prendre en charge et qui vont aller jusqu'en justice quand c'est nécessaire. On peut faire des signalements soit au nom des familles qui viennent nous voir, soit au nom du comité lui-même, si les familles ne veulent pas donner leur nom.
Voilà. D'accord. Claire, Jalil, est-ce que vous voulez...
Oui. Moi, de mon côté, ce qui a motivé justement mon envie de vraiment de m'investir dans cette cause, déjà bien sûr mon parcours personnel en fait. Hein, j'ai fait une amnésie traumatique pendant presque 30 ans et tout m'a explosé en pleine figure dans un moment où émotionnellement dans ma vie privée plus rien n'allait. Et en fait vraiment m'investir dans cette création de mon projet de cabinet, de pouvoir me spécialiser en plus dans l'accompagnement des violences sexuelles, de l'inceste. C'est ce qui m'a aussi donné un sens, ce qui a donné un sens à ma vie, donné un sens à ce que j'ai vécu et cette compréhension de l'inceste, cette compréhension de mon parcours personnel à travers ma thérapie personnelle aussi que j'ai suivie. C'est vraiment ce qui m'a motivée et aussi de pouvoir transmettre la parole, transmettre la compréhension et la conscience de ce qu'est l'inceste et de toutes les conséquences dont on a pu parler juste avant.
Du coup, moi, à titre personnel, donc effectivement, j'avais été victime d'inceste, mais dans la mesure où j'étais indépendant et que je m'étais extrait de ma situation, pour moi, le sujet avait été réglé. Voilà. Et arrivé, proche de la trentaine, du coup, j'ai appris que mon neveu a été aussi victime. Donc là, ça m'a transporté dans le passé. Et du coup, j'ai entamé une action judiciaire qui s'est terminée. Et en fait, j'avais fait un peu... du coup, j'avais pris la fuite. Et j'avais vécu à l'étranger. Et je m'étais dit, je me suis posé des questions. J'avais fait une introspection. Et je m'étais dit que, on est tous temporairement sur Terre. Donc, autant que ma vie soit utile. Et je m'étais dit que publier un livre et parler de ma vie, à la base, c'est très égoïste que c'était pour verbaliser mes mots. Et finalement, en fait, ça a plu puisque du coup, j'ai réussi à être publié, j'avais eu un prix. Et mon objectif, c'est vraiment de m'engager parce qu'effectivement, j'avais été victime et que je remercie la vie, j'ai pu trouver une stabilité. Et si je peux donner de l'espoir et du courage à certaines victimes ou certains témoins, je le fais. Et comme en parallèle, je suis aussi dans la musique, je m'étais dit, la musicothérapie, par la musique, prendre ce sujet-là et apporter de l'espoir, et j'aurais fait ma part sur Terre sur ce sujet. Et d'où ma présence aussi ici. Et je vous remercie.
Merci à vous.
Merci. Du coup, est-ce qu'on peut essayer d'interroger quelles peuvent être les conséquences des agressions incestueuses sur la vie des personnes en tant qu'enfants puis adultes, par exemple sur le lien qu'on peut avoir à l'autre, sur la confiance, etc. Et quelles sont les étapes importantes pour se reconstruire, sur quoi, qui peut-on s'appuyer ?
Notamment, comme vous avez dit, une fois que la personne ou l'enfant ou l'adulte a pris conscience que ce qui lui arrivait n'était pas normal, comment ça se passe après ?
Je dirais que comment ça se passe après, moi je le constate notamment en cabinet, et puis tu pourras peut-être confirmer derrière ou apporter un plus, mais je dirais que les étapes pour se reconstruire, c'est déjà dans un premier temps savoir qu'on peut demander de l'aide. Parce que souvent quand on a été victime d'inceste, en fait on a tendance à se recroqueviller, à rester vraiment dans cette solitude, en tout cas dans cette impression que personne ne pourra jamais nous comprendre, parce que tu parlais tout à l'heure de pensées intrusives, et en fait on a vraiment ce sentiment que personne d'autre que nous ne traverse ces pensées-là et toutes les angoisses qu'il peut y avoir à côté. Et donc on peut parfois rester pendant des années en fait dans un processus de cercle vicieux en fait, où on n'ose pas aller demander de l'aide. Donc c'est important déjà dans un premier temps d'entendre et d'accepter qu'on puisse demander de l'aide en fait pour être accompagné. Et ensuite je reviens sur ce que je disais en début d'émission, le fait que l'inceste c'est aussi un conditionnement pour maintenir l'enfant dans un état d'objet. C'est important du coup dans sa reconstruction de valoriser sa personnalité, son identité, ses valeurs, et vraiment de se construire autour de ça. D'apprendre en fait à se connaître et à connaître notre enfant intérieur aussi finalement qui n'a jamais été écouté. Donc ça c'est vraiment deux grandes étapes, et apprendre aussi à replacer la responsabilité au bon endroit, parce que c'est ça aussi... Je le vois énormément en consultation, et bon, j'en suis passée par là également, mais toujours l'impression finalement que ça a été de notre faute, que ce n'est pas finalement que la personne qui nous a agressés qui est responsable de tout. Et donc ça maintient aussi dans cette ambivalence et dans cette confusion. Donc il y a vraiment plusieurs étapes à travailler, et on peut le faire bien évidemment soi-même à travers... Tu parlais de musicothérapie, donc il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire par soi-même, mais je pense que l'accompagnement thérapeutique est quand même primordial.
Alors, simplement, je rajouterais une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre de miracle, il faut du temps. Tu as parlé de revivre, alors je n'ai pas le nom d'auteur en tête, mais il y a quelqu'un qui a écrit un texte, « Ma mère m'a tué, elle m'a tué comme enfant ». Mais après je suis mort. Tu disais tout à l'heure, moi j'ai fui, les gens oublient, ils ont des comportements, et puis tout d'un coup ça ressurgit souvent à un pic émotionnel, hein, la naissance d'un enfant, un événement fort sur le plan émotionnel, et là il s'agit de se dire, bon, il y a mon enfant, il a été tué, moi j'ai, en tant qu'adulte, j'ai besoin d'avoir une vie, mais si ça fait passer par des étapes patientes, tranquilles, je vais en thérapie, puis j'arrête la thérapie, puis je vais dans des groupes avec d'autres personnes, et puis j'arrête, et puis je fais autre chose, et ça c'est une construction lente. Un enfant il est construit par ses parents, un enfant victime d'inceste il se construit lui-même à l'âge adulte. C'est vachement compliqué, hein. Oui. Mais ça se fait.
Est-ce que tu pourrais expliquer par exemple à SOS Inceste comment vous intervenez auprès des personnes qui vous sollicitent ?
Alors, à SOS Inceste, on intervient à plusieurs niveaux. Bon, il y a déjà, t'en parlais tout à l'heure, des consultations à distance. C'est pas toujours facile pour les gens de venir physiquement à un endroit et de pousser la porte. Je pousse la porte de SOS Inceste, ça veut dire que je suis victime d'inceste et tout le monde va le voir. C'est un fantasme, mais n'empêche que... Donc, il y a les consultations par téléphone à distance, quoi, où on peut, les personnes peuvent parler. Il y a les groupes d'anciennes victimes. Alors, on nous fait souvent le reproche, ouais, vous regroupez d'anciennes victimes, elles vont se complaire dans leur... etc. Mais c'est pas vrai. Elles peuvent parler de choses entre elles que les autres n'ont pas vécues. Je me souviens d'une fois d'une dame qui disait, si mon père était là, je prendrais une lame de rasoir, je découperais sa peau en petites bandelettes et je tirerais aussi longtemps que possible pour qu'il souffre autant qu'il m'a fait souffrir. Vous dites ça dans une conversation au restaurant, les gens vous envoient à l'hôpital psychiatrique. Hein. N'empêche que les personnes victimes entre elles peuvent dire des choses qui ne sont pas entendables ailleurs. Et ce n'est pas toujours morbide. Il y a aussi des moments de fou rire. Ça, c'est les groupes de personnes. Et il y a aussi les groupes de pères. Parce que être conjoint, enfant d'une personne victime, c'est pas simple non plus, parce qu'à un moment donné, il a des réactions incompréhensibles, inattendues, et les personnes ont besoin aussi d'être, pas toutes, hein, mais d'être étayées, soutenues. Donc c'est l'essentiel des propositions qu'on fait au niveau de l'association.
Merci. Alors moi, j'aimerais juste rebondir sur deux points. Après, en fait, clairement, il n'existe pas un process au sens où, bah voilà, il y a le guide, la boîte à outils du bah, t'as été victime d'inceste, donc tiens, prends ça. Non. Par contre, en fait, ce qui est sûr, c'est que la paix intérieure, elle se trouve en chaque personne. Voilà. Et que par contre, en fait, il y a plein de ressources qui sont intérieures ou extérieures. Après, libre à chacun, en fonction de sa maturité, de son choix, de, donc de là où il est dans sa vie, d'aller soit parler à des amis, soit d'aller voir des psys, soit d'aller lire des bouquins, soit d'écouter des podcasts. En fait, il y a tellement de moyens. Libre à chacun, justement, juste d'aller chercher le moyen qui lui correspond. Après, en fait, juste pour poursuivre en fait, ce que vous dites par rapport à l'enfant, moi, pour moi, et je le dis souvent à mes amis, en fait, la vie, c'est comme une journée. C'est pas parce qu'il a plu pendant l'enfance, la matinée, qu'il faut justement négliger le soleil l'après-midi ou ne pas aller le chercher, en fait. Et vous disiez par rapport à victime, oui, on a tous été victimes de quelque chose, mais pour autant, on a été dans le passé. Et ça fait pas de nous des personnes qui ne peuvent pas se reconstruire et trouver sa paix et, voilà, et avoir du courage pour d'autres choses, en fait. Mais le fait de pouvoir identifier qu'on a été victime et du coup d'aller jusqu'au bout de ce que l'on veut ou jusqu'où l'on souhaite aller dans ce chapitre-là, c'est nécessaire pour justement avancer en fait. Et beaucoup disent bah, les victimes se complaisent. Non en fait, parce que moi j'étais victime dans le passé, mais pour autant ça m'a pas empêché de, voilà, du coup, d'avancer sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que quelquefois, chacun vit sa souffrance, elle est propre à chacun, mais on n'a pas forcément des amis qui nous comprennent ou à qui on peut parler sur ce sujet-là parce que c'est quand même sensible. Mais le fait d'aller voir justement un groupe de victimes, et bah, c'est comme quand vous disiez, voilà, aller voir des pères, c'est échanger et pouvoir savoir qu'on va pas se sentir jugé ou livrer quelque chose à des personnes et ça va être trop lourd pour eux en fait. Voilà, donc j'invite juste chacun à se dire que en fait on peut tous trouver notre paix intérieure et il y a plusieurs moyens, il est libre à chacun d'aller chercher en fonction de sa maturité, son temps.
Oui, t'as le besoin d'appartenance aussi à travers les groupes, à travers le fait de se sentir relié en fait. C'est d'autant plus important parce que l'enfant qu'on a été complètement abandonné par ses parents ou en tout cas par s'il n'a pas été agressé par ses parents, par sa famille en général. Et donc ce qu'on recherche aussi à travers les groupes de parole, c'est justement ce sentiment d'être relié et d'appartenir à un groupe. Donc effectivement, lorsqu'on échange avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous, même si chacun a un vécu différent, on se comprend, même parfois sans avoir à parler, et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on recherche dans les groupes de parole.
Et je me demandais par exemple à quelles questions vous êtes amené à répondre, enfin quelles questions les personnes qui ont été victimes se posent ou vous posent en fait quand ils vous sollicitent.
Moi, personnellement, une des premières questions qu'on peut me poser, c'est est-ce que ce que j'ai vécu est normal ? Il y a cette question vraiment de la normalisation des violences et parfois ce qui est même d'autant plus difficile, alors c'est pas forcément le sujet, mais je voulais l'aborder aussi, il y a la question de l'inceste qui n'est pas agi, l'incestuel. Ça aussi, rendre sa légitimité à quelqu'un qui n'a pas vécu d'inceste dans sa chair à proprement parler, d'agression sexuelle ou de viol dans son corps, se sent encore moins légitime qu'une personne qui l'a vécu. Et donc c'est toute cette question du normal qui est amenée. Et je dirais que la deuxième question vraiment qui prime, c'est est-ce que la personne qui m'a fait subir tout ça l'a fait de manière inconsciente ? Ou est-ce qu'elle était pleinement consciente de ce qu'elle était en train de me faire subir ? On en revient sur cette question de la responsabilité et du coup de cette confusion qui se maintient et qui est très, très difficile à dépasser. Et tu le disais d'ailleurs que c'est un parcours du combattant, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça quelque part. Hein. Et je le dis souvent en consultation, l'inceste, on n'en guérit pas en fait. C'est incurable. Par contre, effectivement, on avance, on évolue, à chaque fois à travers différentes étapes de notre vie, que ce soit des thérapies ou autres, mais effectivement, on n'en guérit pas. Par contre, on est responsable soi-même en tant qu'adulte de ce qu'on fait de notre vécu, en fait.
Alors, dans les questions, est-ce que je suis normal ? Pourquoi ma mère ne m'a pas défendu ? C'est des questions fréquentes, hein, parce que ça se passe, même si dans la famille, les autres membres de la famille sont informés de ce qui se passe, on va dire 9 fois sur 10, je devrais dire 99 fois sur 100, pour préserver la famille, par peur, etc., le reste de la famille nie, met de côté, etc. Et ça, c'est une question vraiment très, très forte. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait ?
Je me permets de rebondir. Du coup, tu disais en fait, on n'en guérit pas. Et moi, en fait, juste en termes de sémantique, je pense qu'en fait, c'est une partie de l'identité en fait. Ça veut dire que c'est notre enfance, au même titre que l'inceste, c'est une partie de notre identité. Donc, oui, en fait, il faut la porter, il faut l'accepter. et vivre avec, en fait. Et pour autant, le fait de l'accepter et de travailler là-dessus et d'avancer chaque jour, en fait, et ben, en fait, cette souffrance va diminuer et ça n'empêchera pas d'être dans le présent et de croire en fait en l'avenir, en fait. Et c'est vraiment important de se dire que oui, on n'en guérit pas comme plein d'épreuves dans l'autre vie, mais pour autant, en fait, le fait d'accepter de vivre chaque jour au quotidien et de l'avoir catégorisé et placé, identifié, bah finalement, on arrive à mieux vivre avec.
Moi, je dirais que dans les questions, il y a des questions chez les enfants aussi, c'est pourquoi moi ? Pourquoi c'est à moi qu'on a fait ça ? J'ai eu un petit garçon de 7 ans qui me disait, bah, elle m'a fait ça en me disant qu'elle m'aimait, mais pour moi, l'amour, c'est pas ça. Donc même un enfant arrive à se poser parfois des questions et il n'a pas les réponses. Mais,
Et vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez les familles des enfants victimes. Et est-ce que les familles vous demandent aussi quoi répondre aux enfants, ou est-ce que vous leur donnez des clés un peu ?
Beaucoup de mamans surtout, parce qu'on a surtout des mamans qui viennent, se sentent perdues. Je veux pas y penser parce que je veux pas imaginer ce qui s'est passé. Je veux pas comment aider mon enfant parce que je sais pas quoi lui dire. Je sais pas s'il faut lui en parler souvent. Je sais pas s'il faut ne pas lui en parler. Voilà, ils se trouvent. C'est vrai qu'ils sont assez démunis, les parents.
En fait, je voulais juste ajouter une précision. Enfin, et du coup, tout à l'heure, tu as cité le mot, responsabilité inconsciente. Et moi, dans mon cas personnel, en fait, il y a beaucoup de reproduction sociale, malheureusement. Et en fait, certaines personnes ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont vécu, bah, du coup, c'est pas normal, en fait, et ça aurait dû cesser. Mais comme ils reconnaissent pas le caractère transgressif, ils vont reproduire, en fait. Et moi, en tout cas, à titre personnel, et c'est pas tout le monde, même si ça avait été, même si c'est suffisamment grave, mais le fait que mon père, lors du procès, j'ai compris qu'il lui-même a été victime et qu'il n'a pas su identifier qu'il était victime, bah, pour eux, c'est une normalité alors que ça ne l'était pas, en fait. Et donc, du coup, ça ne vient pas l'excuser parce que c'est suffisamment grave d'être victime d'inceste, mais pour autant, ça vient apporter des éléments d'explication. Et des fois, en fait, de pouvoir comprendre que la personne qui nous a agressé a elle-même été victime, bah, ça permet aussi de mieux comprendre son état d'esprit, que ce n'était pas forcément par rapport à nous, mais c'est par rapport juste à son histoire, en fait.
Oui. Il y a la question du transgénérationnel, hein, du coup. Ce que tu disais par rapport aux mamans que vous pouvez recevoir au sein de l'association, ouais. Le fait qu'elles sont souvent démunies, elles ne savent pas vraiment quel mot employer ou comment agir avec leur enfant qui a été victime. Et c'est souvent également, alors pas tout le temps, mais c'est souvent aussi parce qu'elles-mêmes, quelque part, elles en ont été victimes, qu'elles sont elles également dans une forme de déni de ce qu'elles ont vécu. Et donc forcément, comment rassurer son enfant quand soi-même on est complètement bloqué par rapport à son passé.
Merci. Quel recours au niveau de la justice on peut avoir pour les adultes et pour les enfants ?
Alors bon, je vais répondre pour les adultes. La révélation pour la personne elle-même, des faits de l'inceste qu'elle a vécu, se fait souvent après la majorité. Actuellement, il y a une loi qui permet d'avoir 10 ans après sa majorité pour des faits d'attouchement, exhibition, etc., pour porter plainte, et 20 ans pour des viols. On parle de viol à partir du moment où une partie du col a été pénétrée, c'est-à-dire qu'une fellation, c'est un viol. Mettre un doigt dans le vagin d'un enfant, c'est un viol. Voilà. Donc, on a un petit peu de temps pour porter plainte. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il appartient à la victime de prouver qu'elle a été victime, ce qui fait que la plupart des plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. Alors, vous disiez aussi la question par rapport à SOS Inceste, ce qu'on fait nous-mêmes, mais il y a ce qu'on fait faire aux autres. Il est très important de savoir ce qui existe. Bon, là, pour SOS Inceste, c'est sur le bassin de Grenoble. Quels sont les avocats qui sont compétents dans ce domaine-là ? Ce n'est pas le cas de tous. Quels sont les psys qui sont compétents aussi ? Parce qu'entendre un psy qui vous dit « Oui, mais est-ce que vous n'avez pas vous-même désiré que votre père vous caresse, etc. ?» Ça n'arrange pas vraiment les affaires. Il y en a encore beaucoup. On est dans une idéologie freudienne dans laquelle cette question-là est assez prégnante et toujours enseignée. Donc c'est important de savoir vers qui orienter des victimes au niveau du droit et au niveau du soin.
Au niveau des enfants ?
Au niveau des enfants, je dirais que c'est un peu la même chose. On oriente les familles vers les avocats. Donc on peut faire un signalement si nous on détecte un cas dans les écoles. Si les familles viennent nous demander de faire le signalement à leur place parce qu'ils n'osent pas le faire à leur nom. Donc on va faire nous le signalement, alors soit selon la gravité des faits. Normalement on est censé le faire d'abord à la CRIP, et la CRIP, qui est donc le centre de recueillement d'informations préoccupantes, va le faire après suivre au niveau justice si elle estime qu'il faut l'envoyer en justice. Moi pour ma part, j'estime que c'est toujours grave quand il s'agit d'un enfant, et donc je l'envoie aux deux. Et après, l'un ou l'autre va poursuivre avec une enquête. Mais si c'est vraiment important, la justice pourra agir tout de suite.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu... Parce que vous disiez qu'il ne s'est pas toujours pris... Enfin, il n'y a pas toujours de suite
judiciaire.
Ou judiciaire.
Il n'y en a même presque jamais.
Et comment ça se fait? Enfin, qu'est-ce qui fait que parfois il y en a et parfois il n'y en a pas?
Alors, comme il appartient à la victime d'apporter des preuves... elle-même. Imaginons qu'un enfant vienne d'être victime d'un viol, qui a des griffures dans son anus intérieur du vagin et qu'on retrouve du sperme. Là, on a des preuves. Mais le cas de figure est rarissime. La plupart du temps, on n'a pas de preuves. Que font les avocats des auteurs? La première chose qu'ils leur disent, c'est surtout n'avouez pas. Parce que si l'auteur avoue, là, il y a poursuite. Si l'auteur n'avoue pas, qu'il n'y a pas de preuve, il y a classement sans suite. Donc je crois que le chiffre, c'est de 25 000 plaintes par an qui sont classées sans suite en France.
Parce que le simple témoignage ne suffit pas du coup.
Alors, un témoignage, ça je crois que vous pouvez en pas... Jali va pouvoir en parler du témoignage. Quand une personne est présente, assiste à des gestes incestueux, alors là, ça commence à peser lourd en justice. Hein. Je crois que c'était le cas de ta sœur.
Oui. En fait, moi, ce qui m'a d'ailleurs étonné dans nos échanges, c'est que moi, en fait, c'est allé particulièrement, mais assez vite, parce que du coup, mon neveu a été victime, donc j'ai été appelé, on a mené l'action en justice, et ça a pris même pas un an et demi, en fait. Donc, je me suis porté à partie civile, et là, je me reconnais pas forcément dans ce qui a été dit, parce que moi, comme je vous dis, ça a été assez vite, donc il y avait à la fois le neveu, moi, en tant qu'oncle et adulte, et comme il y avait la reconnaissance des faits, j'ai envie de dire, c'était un peu du pain béni, entre guillemets, quoi. Donc, on est allé assez vite. Et c'est vrai qu'en termes de conséquences, il y a eu une condamnation. Il y a eu différentes sentences qui sont discutables ou pas. Mais c'est vrai que moi, c'est allé assez vite. Et le fait qu'il y a eu reconnaissance et témoignage, on va dire que ça aide pas mal. Voilà.
Parce que oui, ça pose question de est-ce que l'État protège, en fait ? Parce qu'il y a, est-ce que la famille protège et est-ce que l'État protège ? En tout cas, moi, ça me pose cette question.
Alors là, moi, je vais vous faire une réponse subjective. Alors déjà, je vais prendre acte que je me suis trompé. C'est pas 20 ans, c'est 30 ans, la prescription hein, pour des faits de viol. Est-ce que l'État protège ? Moi, en tant que Didier Poudine, je dirais mal, très mal. Et de temps en temps, je demande même s'il n'est pas un petit peu complice. C'est-à-dire que ça arrange bien que ces affaires d'inceste, on n'en parle pas trop. Et je pense que si l'auteur du livre ne s'était pas appelé, donc vous avez parlé tout à l'heure, ne s'était pas appelé Camille Kouchner, et des livres, vous en avez publié, t'en as publié un, Eva Thomas en a publié deux, etc. Si elle ne s'appelle pas Kouchner, on n'en parle pas. Mais alors, Kouchner, tout d'un coup, là, ça fait du bruit. Alors, du coup, c'est mis en place une commission au niveau du gouvernement à laquelle participe la présidente fondatrice de SOS-INCESTE, Eva Thomas. Elle a l'air de penser que là, il y a peut-être des choses qui vont avancer. Je serais comme Saint Thomas, je dirais quand je verrai, j'y croirai.
Oui, c'était un peu la question suivante. Est-ce qu'il y a des évolutions en cours ou pour faire évoluer justement la loi ou pas?
Après, j'ai vu, si je peux me permettre, qu'il y a Carl Zero qui est assez investi là-dedans. Donc, il a rédigé un livre qui s'appelle 1 sur 5 avec justement... un livre, un documentaire, et en fait il est assez actif, et du coup il propose plusieurs solutions pour faire bouger les lignes, par exemple le renversement de la charge de la preuve, parce qu'aujourd'hui quand on est victime d'inceste, c'est à nous de démontrer qu'on a été victime, alors que lui propose justement l'inversement, c'est-à-dire que c'est au présumé agresseur d'aller démontrer qu'il n'a pas été agresseur. Au-delà de ça, il propose plusieurs réformes, et notamment l'imprescriptibilité, pardon. Voilà. Et moi, sincèrement, il s'est joué d'un mois, et sinon, je n'aurais pas pu faire demander justice. Voilà, donc je pense que c'est essentiel de faire bouger les lois, surtout que si on vit dans un État, donc c'est nous également qui sommes partie prenante, donc c'est aussi à nous en tant que citoyens de faire évoluer et de faire en sorte que les lois correspondent à nos attentes.
On va faire une petite pause donc avec une chanson de Stromae qui s'appelle Dodo. Voilà, on vous laisse écouter.
Petit bébé, il faudra se taire. Ouais, même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal, même quand il s'en va. Mais c'est tout à fait normal, car papa a les plus gros bras. Et si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire. C'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire.
Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bientôt.
Tu verras que maman n'est pas mieux que papa, car maman aime voir d'autres monsieur. Et même si c'est bien fait pour papa, tu n'aimeras pas quand papa la tapera. Elle criera ah ah ah, car il se fâchera encore une fois et il te fera ce qu'on lui faisait. Et il te dira que c'est ta faute à toi, que les grands hommes mâles ne pleurent pas, mais qu'ils se battent, enfin battent leurs femmes et surtout leurs enfants. Et tu pleureras, oui c'est pas grave, et tu oublieras. Tu verras, tu feras.
Dodo, enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, bébé dormira.
Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira bien vite. Dodo, l'enfant, dodo, bébé dormira. Plus que quelques fois dormir pour que papa ne se lève pas, même si tu ne seras qu'un peu moins triste quand il disparaîtra. Et encore beaucoup de fois dormir, et enfin tu te reposeras. Pas tout de suite, mais dans longtemps, très longtemps, tu dormiras. Ah 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 ah. Enfin tu dormiras. Ah 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 ah. Enfin tu dormiras. Ah 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 ah. Enfin tu dormiras. Ah, 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 ah.
Voilà, donc c'était une chanson de Stromae qui s'appelle Dodo et qui parle bien du même sujet. Et il y a cette phrase, il faudra te taire. Et comment faire pour que non, on ne faille plus se taire, au contraire, comment faire pour que plus personne ne se taise, que ce soit les enfants, les adultes tous, que ce soit des anciennes victimes et tous les autres, notamment les témoins aussi. Comment faciliter et favoriser l'expression, que ce soit au sein de la famille, hors de la famille? Est-ce que vous avez des clés pour ça? Peut-être en commençant par la prévention auprès des... Enfin, la prévention au sens large.
Bah, je dirais que la prévention au niveau des enfants, c'est de leur faire comprendre déjà leurs ressentis, les sensations qu'ils peuvent avoir au niveau de leur corps quand ils sentent que quelque chose n'est pas normal. Si on leur propose des choses qui font écho chez eux en se disant « tiens, ça me paraît bizarre », il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent refuser, qu'ils ont le droit de refuser. Et surtout que c'est pas parce qu'ils n'ont pas pu refuser qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Ça fait pas d'eux des complices pour autant.
Et est-ce que vous avez des outils, des supports? Comment vous faites pour aborder ce sujet-là avec eux?
On a beaucoup de petites vidéos qu'on leur passe et avec lesquelles après on fait des débats. Donc même au niveau des tout petits de maternelle, chaque vidéo est adaptée à l'âge des enfants. Donc chez les tout petits, on va surtout leur faire parler de leurs ressentis, qu'ils puissent s'approprier leurs ressentis. Et au fur et à mesure des classes dans lesquelles on va, ben on va avoir des débats beaucoup plus ciblés sur l'inceste. Donc toujours avec leur dire qu'ils ne sont pas coupables, que le coupable c'est l'agresseur, et que même les membres de la famille peuvent les agresser, que les agressions ne sont pas seulement en dehors de la famille par des inconnus, parce que bien souvent on va leur dire « parle pas aux inconnus dans la rue », mais dans la famille ils ne vont pas se méfier. Et donc, savoir à qui ils peuvent parler. Savoir que s'il se passe quelque chose, c'est pas parce que c'est papa ou maman ou quelqu'un de la famille qu'on aime qu'il faut garder ça secret. Que même s'ils dénoncent et que le coupable est puni, il sera puni par la justice et pas par eux. Mais c'est vrai qu'il faut les mettre en confiance. Et on sait que quand on fait une intervention, les enfants vont pas forcément parler tout de suite au moment où on est là. C'est pour ça qu'on demande à l'institutrice d'être présente, de façon à ce que si l'enfant doit parler plus tard, il sait qu'elle a entendu ce qu'on a dit, il sait qu'il pourra aller la voir. Bon, on lui cite aussi toutes les autres personnes de l'école à qui il peut s'adresser, et ils peuvent nous faire revenir en cas de besoin pour que l'enfant nous parle plus tard.
Qui identifie bien des personnes de confiance à voilà. Qui peut s'adresser. Et donc vous intervenez auprès de toutes les écoles, auprès de toutes les... Est-ce qu'il y a l'équivalent de ce que vous faites partout?
Alors nous, on est plusieurs comités dans la France qui font aussi des préventions dans d'autres écoles. Mais il n'y a, à mon avis, pas assez de prévention. Puisque normalement, la prévention au niveau de la loi est prévue dans les écoles. Il y a encore beaucoup d'écoles où il n'y en a pas.
Et... Donc comme il y a cette grande question de justement, en fait que c'est gardé comme un secret au sein de la famille, est-ce que vous pourriez nous donner, soit de votre expérience, soit des personnes que vous connaissez, des pistes pour faciliter ça? Enfin, vous nous avez déjà dit le fait d'aller en parler à l'extérieur, mais par exemple, quelqu'un de la famille qui est témoin, ou même des personnes proches comme des instituteurs, institutrices, comment en parler? Je ne sais pas si je suis claire, mais...
Oui, je ne sais pas si tu veux...
Moi, je veux bien répondre. Je pense qu'effectivement, la première chose à faire, ce serait de former toutes les personnes qui sont en contact des enfants, y compris les psys. Je pense à ça parce qu'un célèbre psychiatre marseillais avec qui un maman avait emmené sa petite fille, victime d'inceste, lui a dit « Écoute, ma cocotte, tu avais 7 ans, maintenant c'est fini ». Alors ça, pour couper la chic aux enfants, c'est magnifique. Il s'agit d'écouter, de ne pas interpréter, de savoir entendre, savoir gérer ses émotions. Et c'est vrai pour les psys, c'est vrai pour les enseignants, etc. Parce que quand on vous révèle ça, c'est lourd, quoi. Savoir à qui s'adresser. Côté du droit, côté de la protection d'enfance, etc. Et ça,
du coup, justement, à qui il faut s'adresser? Si je suis témoin demain, à qui je dois m'adresser? Parce que je ne sais pas.
Pour un enfant mineur... La démarche logique, ce serait de vous adresser au substitut du procureur en charge des enfants, parce que l'enfant est en danger, et de signaler que cet enfant est en danger, parce que vous avez vu des violences sexuelles exercées sur lui. C'est là, lui peut ensuite déclencher des modalités de protection au niveau de la protection de l'enfance, etc.
Donc, est-ce qu'on peut le faire seulement s'il y a des suspicions, si c'est l'enfant qui nous le dit? Est-ce qu'on peut faire ça?
Alors, moi, je dirais qu'il y a aussi le 119, qui a un numéro d'appel
anonyme.
Anonyme et qu'on peut appeler n'importe quand, de n'importe où. Le 119, de toute façon, va après relancer les associations les plus proches pour qu'ils prennent en charge les familles. Après faire un signalement, même si on n'est pas sûr de ce qu'on dit, moi je dirais qu'il vaut mieux signaler quelque chose dont on n'est pas sûr que ne rien dire et laisser un enfant qui est potentiellement victime.
Après, juste pour me dire, mais si jamais on ne se sent pas la force et le courage d'appeler ou bien d'en parler, bah, peut-être écrire une lettre anonyme en fait, ou déposer un mot, mais en tout cas ne pas laisser une situation qui peut avoir des conséquences désastreuses en fait.
Par contre, la lettre anonyme ne sera pas prise en compte au niveau justice.
Peut-être éventuellement l'adresser à un professionnel dans une école scolaire pour justement lancer une alerte, entre guillemets.
Oui, en tout cas, ne pas rester dans cette forme de déni, hein, soi-même aussi, en fait. De se dire que finalement, nous, on ne fait rien parce que bon, quelqu'un d'autre va s'en occuper à notre place. Donc voilà, on fait comme tout le monde, entre guillemets, on met sous le tapis et on laisse les autres s'en charger, en fait. C'est aussi de notre responsabilité à nous, en tant qu'adultes, aujourd'hui. Si on est témoin ou si un enfant nous partage sa parole, de vraiment pouvoir le secourir, en fait, et faire ce signalement, en tout cas, aller vraiment dans le sens de la protection.
D'autant plus qu'un adulte qui sait et qui ne fait rien peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
De vrai.
Et du coup, c'est...
Oui, mais c'est une question qui est en train de remonter, ça. C'est effectivement, je ne vois pas, j'entends pas, je ne dis pas. Mais c'est la non-assistance à personne en danger.
Tout à fait.
On a l'impression que ça va bouger un petit peu, ça, quand même.
Et enfin, je reviens un peu sur cette question, mais parce que je n'y connais rien. Et je me demande, est-ce que c'est important d'en parler en famille ou vraiment ce n'est pas utile et même au contraire, ça peut faire plus de mal?
À la famille concernée ?
À la personne concernée. Est-ce que c'est important pour la personne de pouvoir en parler en famille ?
En tout cas, quand vous avez affaire à une personne, alors je ne parle pas des tout petits hein, qui ne peuvent pas mesurer les choses, mais même un enfant de 10-12 ans, on ne va pas lui dire « tu m'as parlé et maintenant tout va aller bien ». Parce que ce n'est pas vrai. Tu m'as parlé, tu as bien fait d'en parler, je vais continuer avec toi, je ne te lâcherai pas. Mais ça va être compliqué. Faut être honnête. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de miracle. L'important, c'est de s'engager soi-même à suivre les événements et à être là quand l'enfant ou l'adulte en a besoin. C'est comme ça que je répondrai.
Après, je pense que le climat et la famille... Je pense que le fait juste d'en parler, pour info, voilà, si jamais on voit une information passer devant un JT et qu'on a l'occasion d'en parler du coup à sa famille, ah bah tiens, il y a la thématique de l'inceste, juste saisir des opportunités pour justement faire de ce sujet-là un non-tabou et voilà, et s'assurer et veiller que en fait son enfant, en tout cas, n'est pas victime en fait. Et après, je pense que si jamais son enfant est victime, il y a aussi en fait un moment où on est en phase, on est d'accord pour en parler et des fois non en fait, et ne pas rappeler le passé tous les jours parce que des fois on a aussi besoin d'être dans le présent et nous rappeler à un sujet qu'on essaye de traiter mais pour autant qu'on essaye pour lequel on essaye d'avancer. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on l'aborde et à quel instant, parce que en parler tous les jours et toutes les heures, c'est pas non plus l'objectif quoi, mais en tout cas montrer à son enfant, en tout cas à un proche, qu'on est disponible pour en parler si jamais il souhaite en parler à un certain moment et qu'on respecte sa vie, son intimité, mais que pour autant on est là pour écouter, je pense que c'est le meilleur des cadeaux qu'on peut offrir en fait.
Oui, complètement. Finalement, être dans l'accueil, sans forcément être dans la recherche de solutions, juste être là, être présent pour accueillir, pour entendre et écouter cette souffrance, cette parole, et finalement de simplement dire à cette personne qu'on la croit. C'est surtout ça qui prime en fait, hein, quand on a été victime, c'est d'être cru et d'être non jugé et d'être entendu correctement.
Après, pour les parents à qui l'enfant se confie, moi je leur dis toujours, ne pas poser de questions, même si on a envie de savoir, on a envie de poser des questions à l'enfant pour qu'il en dise plus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que l'enfant va être entendu, auditionné dans un lieu exprès, et on va lui reposer des questions, et plus on va lui poser des questions à cet enfant, plus on va relancer ce traumatisme. Donc même si c'est tentant pour les parents de se dire « je veux savoir », eh ben il faut pas. Il faut éviter d'en parler jusqu'à ce que l'enfant soit entendu. Après, oui, on peut en reparler avec lui s'il en parle, mais que ce soit pas l'adulte qui soit demandeur à l'enfant.
Et en plus, ça pose le problème, un enfant se dit « si on m'a déjà posé la question et qu'on me la repose, ça veut dire que j'ai pas donné la bonne réponse ». Donc il risque de changer sa réponse, et ça rend tout très très compliqué.
Ça, c'est plus pour les enfants. Ouais.
Oui, mais faut, voilà, mais il faut que chacun soit à sa place. Quoi. Il y a la personne qui entend, qui oriente, mais ce n'est pas à elle de poser des questions qui relèvent de la compétence de la justice.
Comme on l'a dit en introduction, c'est vrai que bon, là, c'est assez récent qu'on entend parler publiquement, comme tu l'as dit, parce qu'il y a eu un livre de plus grande, je ne sais pas comment dire, qui a fait du bruit, ouais, notoriété. Mais là, vous êtes deux ici autour de la table à avoir écrit un livre aussi pour en parler publiquement. Est-ce que un livre et même une chanson, est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait et peut-être nous dire comment, à quel besoin ça répondait, c'était quoi votre souhait en écrivant ce livre et cette chanson? Peut-être Lisa d'abord.
Moi, le livre, je l'ai écrit déjà pour terminer une thérapie. Au départ, je l'avais écrit pour moi. J'écrivais beaucoup, beaucoup parce que j'avais besoin d'écrire. Et puis, un jour, il y a une personne dont j'étais proche qui m'a dit « Ces écrits-là, il faut en faire quelque chose. » Donc, j'ai contacté des personnes pour m'aider à éditer ce livre. Et c'est vrai que ce livre, pour moi, ça pouvait permettre aux personnes qui m'ont connue de savoir pourquoi j'avais eu telle ou telle réaction, de comprendre pourquoi j'étais comme ça ou comme ça. Et c'était aussi pour permettre justement aux victimes adultes de pouvoir parler. Alors c'est vrai que ce livre, j'ai eu fait des interventions au niveau des lycées ou des jeunes, je venais de le sortir. Et il y avait des jeunes filles à qui on faisait cette intervention qui ont voulu l'acheter, ce livre, et ça les a amenées à parler d'elles-mêmes.
Donc c'est pour soutenir la parole, l'expression.
Oui.
Est-ce que tu voudrais nous en lire un extrait ?
Ici, là-bas, chez toi, chez moi, l'enfance n'a été que destruction. L'après, une éternelle reconstruction. Que penser de ceux qui se sont servis de ces souffrances pour assouvir leurs envies, qui ne se croient forts et fiers qu'en nous mettant à terre, qui se disent parents en piétinant leurs enfants, qui me donnent envie de vomir ou d'aller me coucher et dormir, s'enfoncer dans le sommeil, n'espérant plus aucun réveil, mais alors, qui veillera à faire cesser ce que personne ne veut réaliser? On ne peut jouer à l'autruche, la reine-mère ne peut quitter la ruche. Petit, vous avez besoin de mes bras, n'ayez plus peur, je serai là.
Merci beaucoup. Jalil ?
Du coup, pour répondre à ta question, donc moi, très égoïstement, au début, c'était tout comme toi, de pouvoir mettre des mots sur mes mots. Après, en y réfléchissant, je m'étais dit que ça pouvait aider d'autres, et comme j'ai été poussé par mon entourage, donc j'ai publié. Ensuite, pour être très transparent, moi, je ne voulais pas médiatiser parce que je ne voulais pas tomber dans la victime. Je ne suis pas une victime, en fait. J'ai été victime et ce sujet est réglé. Mais le fait qu'on m'ait contacté pour me dire en fait on n'arrive pas à avoir des témoignages, en plus moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc dans le milieu maghrébin et musulman on n'en parlait pas, et je voulais justement avoir un livre pour m'aider et j'en avais pas trouvé, donc j'ai créé mon propre outil quoi. Et le fait d'être médiatisé, je me suis dit effectivement personne ne rêve d'être connu pour ça en fait, clairement je pense que personne, mais pour autant je me dis si je peux donner de l'espoir ou du courage à des gens dans un milieu dans lequel on n'en parle pas, et j'aurai ma part des choses. Après, comme je disais, je suis aussi musicien, donc j'ai créé composé une musique qu'on va lancer en novembre. Et l'objectif, justement, ça serait qu'elle soit étudiée en cours de français et musique pour faire de la prévention. Donc j'entends un extra a cappella et j'espère qu'elle pourra donner du courage à d'autres.
Hello papa, mémé, dis-moi que passa. Quelle est cette folie qui t'a poussé tout droit dans mon lit, au point de me tuer. Cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là se protégera, cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là survivra. Mais à toi qui m'as donné la force, mais de te tenir tête, de vivre sans entorse, cette vie comme une fête, de réaliser mes rêves sans aucune trêve. Cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là se protégera, cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là survivra.
Merci pour ce message d'espoir, en effet.
Merci à vous.
C'est vrai que même ton livre, on rappelle le titre, c'est Le Salon Marocain,
oui,
qui illustre en fait un parcours qui peut justement être un message d'espoir aussi, de voir qu'on peut avoir une vie très riche, très diversifiée, avec plein de d'occupations, d'activités. C'est plutôt assez, comment dire, réconfortant.
Oui, en fait, parce que du coup, bah, je le dis et je le répète, en fait, moi, je remercie la France, parce que sans la bourse, j'aurais jamais pu faire d'études. Et le fait, voilà, d'avoir financièrement, j'ai été mis à la rue à 10 ans, donc le fait d'avoir la bourse pour pouvoir financer mes études et de faire des études de droit et d'évoluer rapidement, parce que j'ai été bénéficiaire de la méritocratie, donc j'ai pu évoluer très dans des postes. Et mon message, c'est de dire, en fait, encore une fois, on peut être victime d'inceste, mais on peut se relever et on peut construire un avenir, en fait. Et la ressource, vous l'avez en vous. Donc, seul vous pouvez trouver votre paix intérieure, mais grâce à des ressources intérieures ou extérieures. Et franchement, ouais, la paix intérieure, c'est un travail de chaque jour et on peut y arriver. Mais pour ça, il faut s'auto-saisir.
Et on arrive donc à la fin de cette émission. Je vous propose, si vous voulez, de dire un petit mot de conclusion avec peut-être les informations ou ressources que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. Qui veut commencer ?
Allez, je vais commencer. Moi, en conclusion, je dirais que j'espère qu'il y aura beaucoup d'émissions comme la vôtre. C'est-à-dire qu'on va se mettre à parler réellement de l'inceste, qui est quand même un problème majeur. Hein, 20% des enfants, c'est pas rien. Que les pouvoirs publics, au-delà de la réaction au livre de Madame Kouchner, vont réellement mettre en place et des dispositifs de protection, parce qu'aujourd'hui, au nom des droits des parents, on confie à un enfant victime un adulte présupposé innocent, mais qui est toujours auteur, sans accompagnement, sans rien du tout. Moi, ce que j'espère, c'est que quand même, il y aura une opportunité d'avancer par rapport à la protection des enfants et à l'expression autour de l'inceste, qui est un vrai fléau. Ça n'empêche pas, vous êtes tous les trois là pour le montrer, qu'il peut y avoir une reconstruction. Mais enfin, c'est quand même quelque chose, si on peut arriver à limiter, ça sera une bonne chose. Il y a des mesures à prendre. Aux États-Unis, ce n'est pas les auteurs qui sont présumés innocents, c'est à eux de prouver qu'ils sont innocents. Ça renverse quand même sérieusement les choses. Hein. Si ça pouvait arriver chez nous, ça serait pas mal.
Effectivement. Moi, j'ai envie de dire en mot de conclusion, de rebondir un peu aussi sur ce que tu as dit, Jalil, le fait que finalement, le parcours de résilience, souvent on entend les personnes victimes courir après, entre guillemets, cette fameuse résilience de se relever, de sublimer ce traumatisme. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est ce que je partage souvent aussi dans les consultations, notre résilience, elle nous appartient, en fait. On est quelque part tous résilients aussi à notre manière, à notre niveau. Et donc, de comprendre ça, ça sort aussi de ce processus de comparaison aux autres victimes, d'avoir l'impression finalement que nous, on n'arrive pas à atteindre cet état de confiance en soi et d'estime de soi, et donc du coup on est en infériorité, et donc du coup on ne cesse pas finalement de se dévaloriser. Donc moi, j'avais vraiment envie de valoriser ça, au contraire, de dire que la résilience, elle est propre à chacun, et moi je le partage donc dans mes consultations à mon cabinet à Pierre-Latte ou en ligne. Voilà, je le souligne aussi que je fais également des consultations à distance, et à travers tout ce que je peux partager sur les réseaux sociaux, et sur mon blog, voilà, qui est également disponible sur mon site. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de partager tout ça.
Donc c'est Claire Gotha pour trouver toutes ces informations.
Oui, sur Google, on tape Claire Gotha et on trouve voilà, mon site. J'ai également une chaîne YouTube où je partage beaucoup d'informations en vidéo. Et sur mon compte Instagram, c'est Kitapsi, où je partage également beaucoup de publications pour transmettre et accompagner chaque personne.
Ok, merci.
Moi, je voudrais dire que si vous connaissez un enfant dans votre quartier, dans votre rue, dans l'immeuble que vous habitez, dans l'école que vous fréquentez, dans votre famille, ou même à l'intérieur de vous qui est prisonnier de ce silence, de cette souffrance, de ces horreurs, c'est à vous, en tant qu'adulte, de le libérer et de faire en sorte qu'il puisse parler, qu'il puisse être écouté et surtout entendu par des professionnels, car ça ne peut pas et ça ne doit pas se régler en famille. Vous trouverez autour de vous des associations pour prendre le relais, répondre à vos questions, vous soutenir, vous écouter, vous guider. Pour vous dire aussi que tous ceux qui vivent ou qui ont vécu le pire sans le choisir peuvent choisir le meilleur en se donnant le droit de vivre. Le chemin va être long, sinueux, chaotique. On traverse parfois des tunnels très sombres, mais la lumière est toujours à la sortie. Car même après avoir connu et traversé le pire, le bonheur est toujours possible pour tous.
Merci, c'est le nom de ton livre, c'est ça ?
C'est ça.
Le bonheur est toujours possible pour tous, c'est ça. Merci, Lisa Tivol, donc de la présidente de l'association Alexis Danan
de Valence.
Et Jalil, tu voulais dire un petit mot ?
Oui, juste deux choses. Il y a des ressources qui sont accessibles, notamment pour faire évoluer la loi, donc Carte Zéro, j'ai cité, donc son livre 1 sur 5. Il y a également une éducatrice parentale qui met à disposition un e-book gratuit donc sur justement la sensibilité à la pédocriminalité et en tout cas à l'éducation sexuelle, des parents à destination des enfants. Donc elle s'appelle Johanna Ramba, donc le e-book est gratuit. Donc voilà, j'invite toute personne à pouvoir s'en saisir si besoin. Après, mon message, il est plus personnel, en fait, s'adresse soit aux victimes ou soit aux témoins. Voilà, clairement, on est tous acteurs, en fait, du monde dans lequel on vit. Donc, soyez acteurs, et acteurs, ça veut dire, soyez votre ami, acceptez-vous, aimez-vous, apportez-vous suffisamment d'amour pour faire en sorte de tous ensemble vivre dans une société où on réduit ou on stoppe l'inceste. Et donc, il ne tient qu'à vous.
Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venu témoigner et partager votre expérience. Moi, je remercie aussi donc un collectif, il y a un fanzine féministe dans la vallée qui s'appelle Vulvet Underground et qui a fait un dossier donc dans le numéro 2 sur l'inceste et qui s'interroge plutôt justement au climat incestueux, à qu'est-ce qui rend possible l'inceste et à tout le reste aussi, la loi et tout ça. Donc, moi, je me suis beaucoup appuyée dessus pour l'émission. Et puis après, il y a plusieurs podcasts qui sont accessibles sur internet, donc je vais pas tous les citer, mais il y a par exemple La loi de l'inceste dans l'émission Les couilles sur la table de Victor Taillon. Voilà, et après il y a aussi dans la presse, notamment dans une journaliste de La Croix, Héloïse Neuville, qui a fait tout un dossier sur inceste, vaincre les silences, et qui a même été rencontrée donc des agresseurs pour essayer de comprendre et peut-être prévenir, enfin empêcher, que éviter que ça se produise. Et cette émission sera donc réécoutable en ligne sur le site de Radio Saint-Ferréol et rediffusée le mercredi, donc demain à 8h. On vous remercie pour votre écoute. On espère que cette émission vous aura appris des choses et surtout qu'elle aura contribué à sortir du silence et à faciliter la vie des personnes qui peuvent subir ces violences. On vous remercie. Ah, j'ai oublié de dire que la collective est ouverte à tout le monde. Donc si vous avez envie de venir participer et faire une émission, c'est tous les mardis midi sur Radio Saint-Ferréol. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.